Au départ, il y eut la pierre, matière originelle, que l'homme dut apprendre à tailler, à façonner, à sculpter, pour en faire des figures de légende et des constructions historiques. L'un de ces hommes, qui a appris à maîtriser le granit et le marbre, est installé à Amber depuis 20 ans. Il s'agit de Thierry Métria, tailleur et sculpteur de pierre, qui nous fait partager sa passion dans ce reportage. Thierry Métria, tailleur, sculpteur de pierre, c'est le nom de ton métier ?
Oui, tout à fait, oui. Je suis tailleur de pierre et sculpteur à la fois.
Et installé à Amber ?
À Amber, oui, depuis plus de 20 ans.
D'accord.
Enfin, 20 ans tout rond, puisque à la fin de l'année, ça fera 20 ans, 2002, que je me suis mis à mon compte.
Alors, on va parler de ta formation, parce qu'on ne devient pas tailleur de pierre comme ça par hasard. Ça s'est passé comment ?
Quand on se retourne et qu'on refait tout le parcours, on s'aperçoit que c'est une succession de choses que je n'aurais pas pu prévoir à l'avance. Et ça a commencé avec une petite difficulté à l'école. Et donc, j'ai bifurqué sur un CAP. On m'a proposé la pierre, que je ne connaissais pas. Et j'ai accepté. Et donc, je suis parti à Feltin dans la Creuse, et où j'ai passé un CAP en 2 ans. Et ça a été le début de mon aventure dans la pierre.
Oui, ça c'est une école qui est très connue dans ce milieu-là, hein. C'est là où on apprend ces métiers de la pierre, de la taille de pierre.
Oui, les maçons de la Creuse sont renommés à Paris et ont créé cette école du bâtiment qui est assez formidable et où j'ai appris, c'était vraiment l'une des meilleures écoles en France, tout à fait.
Ce premier contact avec la pierre, ça a été parlant pour toi ? Tu t'es dit oui, c'est ça ma voie ?
Alors, il faut dire que la pierre est quand même un objet de fascination pour beaucoup de gens. Donc il a une attraction assez forte, donc il exerce une fascination sur les gens. De là à dire que sur le moment je souhaitais en faire mon métier, je dirais pas forcément, mais en tous les cas il a un pouvoir d'attraction, tant la matière que le résultat et les applications qu'on en fait sont assez fascinantes, donc c'est quelque chose qui vous tire un petit peu quand même dès le départ, quoi.
Et puis après Feltin, il y a eu une formation que tu as poursuivie en Italie cette fois-ci ?
Oui, alors je suis passé par plusieurs étapes. Déjà, quand on sort de l'école, on n'a pas d'outils à soi. Il faut trouver du travail et donc Amber, ce n'était pas forcément évident. Donc il faut se projeter dans l'avenir et dire je veux en faire mon métier. Donc maintenant, il faut que je parte et que je trouve des entreprises. Ce que j'ai fait, et j'ai rencontré un homme chez qui j'ai travaillé, qui m'a parlé de l'Italie et qui me parlait de Pietrasanta, qui est une ville à côté de Carrare, la Pierre Sainte. Et tout ce massif de Toscane est rempli de marbre blanc. Et donc j'ai décidé à un certain âge, après avoir fait quelques expériences en entreprise, de parfaire mon parcours. Et j'ai souhaité je suis allé un peu au hasard en Italie en espérant trouver du travail éventuellement, chose qui n'est pas arrivée. Et j'ai rencontré, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui maîtrisaient ce métier là-bas et ils vivent tous de la pierre. Et donc j'ai rencontré un Français qui m'a parlé des Beaux-Arts. Donc je suis rentré en France et j'ai cherché une bourse d'études que la SEMA, Société d'encouragement aux métiers d'art, a bien voulu m'accorder en me parrainant dans mon projet. Et donc je suis reparti en Italie et faute de trouver du travail, j'ai décidé de rentrer aux Beaux-Arts et donc à 25 ans de reprendre les études et d'apprendre toute la sculpture.
Et alors là, quand on est en Italie, à Carrare en plus, c'est l'endroit idéal pour apprendre la sculpture à l'italienne, ça a été un gros plus pour toi ?
Oui, c'est un lieu où déjà on a la matière première. Et quelle matière première, puisque c'est celle qu'on sert depuis l'Antiquité pour faire la belle sculpture, en raison de ses qualités, en raison des qualités de ce marbre. Et donc j'ai pu rencontrer beaucoup d'artistes, apprendre beaucoup de choses avec l'école, et je louais un petit atelier pour travailler de mon côté en dehors des heures d'école. Et j'ai eu l'occasion de côtoyer, de discuter technique et de voilà, de parler avec des gens qui venaient du monde entier. Le monde entier est à Carrare. Aujourd'hui, c'est un petit peu perdu de son rayonnement à cause du... Malheureusement, tout le travail a été récupéré par les pays étrangers à bas coût. Et donc, vendant leurs matières premières, ils se sont fait piquer un petit peu toute la main-d'œuvre, les réalisations qu'on pouvait faire. Mais ça reste pour beaucoup de gens l'endroit où il faut être. Sur une pierre calcaire, c'est pas la pierre que j'utilise habituellement parce qu'on est plus sur du granit ici, mais la commande était pour le sud et on m'a demandé de trouver une pierre qui ressemblait à la région. Donc c'est une pierre que j'ai achetée vers Nîmes et qui est un calcaire qui s'appelle le verfeuil.
C'est une pierre qui est plus facile à travailler peut-être, le calcaire?
Ah oui, c'est même pas les... D'ailleurs, on utilise d'autres outils, outils acier, on n'a plus besoin du tungstène au bout des outils. Et on utilise même des ciseaux qui ressemblent à ceux aux ciseaux à bois.
Ah oui.
Pour avoir des surfaces plus larges, puisqu'on peut se permettre on a moins de résistance avec la pierre, donc on peut utiliser des outils beaucoup plus larges. Et c'est souvent des outils acier qui ressemblent à des ciseaux de menuisier.
D'accord.
Sauf qu'ils n'ont pas un pan coupé, mais ils sont taillés en pointe, avec un angle de chaque côté égal. Voilà, et dans du calcaire, c'est du gâteau. On va doucement. Voilà, on dégage tranquillement. Ça peut être par petites touches, voilà. Pas besoin de, même avec le granit, il faut être délicat. Voilà, je protège bien mon arête et maintenant je peux rentrer dedans beaucoup plus fort. Voilà, et on a cet aspect broché.
Et du coup, le calcaire, c'est une pierre qui permet de faire plus de détails, plus fins peut-être que du granit.
Oui, on peut aller beaucoup plus loin, beaucoup plus loin, plus facilement et plus vite.
D'accord.
On a moins de contraintes. On peut finir à la râpe, on peut faire des petits détails après, un peu comme un menuisier, il s'appuierait avec son ciseau pour finir des choses. Là, on parle de la sculpture peut-être, mais on peut venir travailler un petit peu comme ça, pour faire quelques finitions, voilà. Donc, c'est pas ma pierre préférée parce que dans le temps elle résiste mal, au moins pour la région, parce que dans le sud on voit qu'elle se comporte bien, il y a moins de gelée. Mais c'est pas qu'elle est moins noble, mais elle a ce désavantage, comme dans les châteaux de la Loire, d'avoir besoin d'un entretien permanent.
Et oui, pour les intempéries, pour.
C'est un petit peu ce qui est dommage. Mais sinon, on peut faire très belles choses, ça c'est sûr.
Qu'est-ce que tu proposes comme type de travaux ?
Il faut exploiter toutes les phases de la pierre, que ce soit la taille, la marbrerie. Alors pour moi, décorative, dans le sens où je ne fais pas de funéraire. La gravure, la sculpture. Il faut un petit peu aligner toutes ces armes pour pouvoir faire quelque chose de complet.
Donc ça va passer par exemple par la restauration de bâtiments.
Voilà, il y a la restauration du petit patrimoine lorsqu'il y a de la casse sur une croix dans un village ou sur un petit oratoire à restaurer. Ça va être les particuliers pour remettre au goût du jour une cheminée, un four à pain. Des marches d'escalier, des habillages de murs, couvertures, piliers, portails d'entrée, ouvertures de fenêtres. Donc toute cette tranche taille de pierre du bâtiment. Et puis après, répondre à certaines demandes en sculpture, donc parfois en cimetière, ou pour des commandes publiques. Voilà.
Et puis je crois aussi que tu travailles des pièces pour mettre dans des cuisines, par exemple.
La pierre a dû se réinventer à une époque. Le ciment est arrivé et nous a fait reculer dans pas mal de secteurs d'activité. Et donc, il a fallu un peu se réinventer. Et aujourd'hui, par exemple, l'industrialisation et le débit des plaques en tranches fines qui nous permet actuellement de faire des habillages de cuisine, de salle de bain.
Donc ça va être quoi principalement comme pièce que tu vas faire ?
Donc des plateaux pour couvrir les meubles de cuisine afin d'avoir un revêtement pratique et esthétique.
Inusable.
Et inusable, effectivement, quand on parle du granit, oui, inusable. Et voilà, les salles de bain, habillage de murs, des éviers, plein d'applications, habillage de marches d'escalier.
On peut tout faire avec la pierre, en fait.
Voilà, elle a toujours été en extérieur, hein, si on regarde les places des villes ou des choses comme ça. Faut pas dénier. On a de gros secteurs d'application qui n'ont pas perdu. La pierre a un impact carbone très faible aujourd'hui. À l'heure actuelle, fabriquer du ciment, c'est coûteux en énergie. Alors que la pierre, qui pendant quelque temps a reculé, reste une matière qui est à disposition, qui est déjà toute prête. Et les places des villes, tout ça, les revêtements de sol. Tout reste fait en pierre encore, hein, beaucoup de choses.
Alors il y a un aspect aussi historique important avec la pierre. On est par exemple devant le dolmen de Boissière ici, devant des pierres brutes. En fait, la pierre, c'est la première matière de notre planète.
La première matière et je dirais, après réflexion, après y avoir réfléchi, professionnellement, je pense que la pierre est l'un des plus vieux métiers du monde. Là, nous n'avons pas d'aspect de taille, mais nous avons l'image de ce que la pierre a de fascinant, c'est cette éternité. Et donc, effectivement...
Alors toi qui es spécialiste, qui es passionné par la pierre, quand tu vois un monument comme celui-ci, ça t'inspire quoi ? Parce qu'on se demande toujours comment ils ont fait pour monter une pierre aussi lourde.
Ben oui, on est tous un petit peu sidérés des efforts qu'ils ont fournis pour trimballer cette pierre dans ses os. Et il n'y en a pas qu'une, il y en a quatre. Et monter tout ça... aujourd'hui fabriquer leurs cordes puisqu'ils n'avaient pas de moyens non plus pour la traîner, il fallait encore faire des lianes, utiliser du cuir ou je ne sais quoi, donc c'est assez impressionnant et fascinant de voir le travail fourni par ces hommes pour...
Et alors ça, quelque part, ça rejoint aussi une autre de tes passions, c'est l'histoire.
Oui, j'aurais aimé... tout ça m'amène à... Moi qui suis tailleur de pierre, à considérer ces monuments d'un autre œil, mais aussi étant passionné d'histoire et d'archéologie ou de l'histoire tout court, hein, de l'Antiquité au monde moderne. Quand je suis devant un monument ou devant une revue ou un reportage qui parle de l'Égypte ou du monde inca et de la manière dont ils ont construit tous ces monuments, mon œil, je regarde tout ça d'un autre œil et je perçois les techniques et tout du moins me pose beaucoup de questions par rapport à toutes ces choses qu'ils ont fait.
Et toi, à ton tour, est-ce que quand tu travailles la pierre, tu as l'impression de travailler pour l'histoire, pour l'éternité, de faire des pièces qui vont rester ?
Oui, effectivement, hein. C'est quelque chose qui est toujours présent dans la tête du tailleur de pierre, c'est que, ou du sculpteur, c'est que c'est quelque chose qui va rester dans le temps. On en a la conviction et la preuve. Et donc on fait acte de traces. On sait toujours que ça va rester.
Tu travailles à la commande, bien sûr, pour des clients. Et puis, il t'arrive aussi de faire des collaborations avec des artistes.
Ça arrive, du coup, puisque voilà, le métier, je suis à mon compte depuis 20 ans. Des relations se sont nouées avec certaines personnes. Et il arrive qu'on me demande des chantiers un petit peu plus intéressants et qui sont dans l'art contemporain d'aujourd'hui. Ça peut être des choses simples. La pierre parle souvent d'elle-même. Mais je réponds certaines fois à des demandes d'artistes. Et nous avons donc l'occasion d'aller exposer ça dans des musées. Des fois pour des choses éphémères, mais travailler dans ce monde-là est une chose supplémentaire qui est très intéressante.
La taille de pierre, la sculpture de la pierre, c'est un métier vieux comme le monde, un des premiers métiers. On t'a transmis ce savoir, on te l'a donné. Est-ce que toi, à ton tour, tu as cette mission de transmission ?
Oui, alors je le fais bien volontiers. On a l'occasion avec les écoles de faire des journées découvertes. Donc les jeunes peuvent s'approcher du métier et venir voir pour se rendre compte si ça leur plaît, voir ce qui s'y passe. Il y a aussi des jeunes qui sont en formation dans la pierre et qui souhaitent trouver des entreprises pour faire leur stage.
Le travail de la pierre, c'est un travail qui est à la mode ou est-ce qu'il est intemporel, il est toujours à la mode ?
Oui, il le sera toujours, j'espère. On voit depuis tous ces siècles, la pierre n'a pas perdu de son lustre. Effectivement, elle sera toujours là. Appliquée et utilisée avec d'autres outils, peut-être. L'homme, je vous dis, dans la restauration, les monuments, aura toujours sa place. Et je pense que la pierre, par ses couleurs, par sa diversité et par le fait que, comme on disait, elle est à disposition de tout le monde, encore de beaux jours devant elle.
Donc il y a toujours de la place pour l'art dans l'humanité et il faut continuer à créer.
On va dire que l'homme a toujours voulu créer. Donc est-ce que ça sera en pierre ou autre ? L'art continuera et l'homme continuera à s'exprimer, oui.
Suivant une longue tradition de travail de la pierre en Livradois-Forez, Thierry taille toutes les pierres avec amour et passion. Allez le rencontrer dans son atelier à Ambert, il partagera avec vous les secrets de son savoir-faire.